Re-bienvenue au Voyeur de vue, un podcast pour ceux qui sont éternellement devant les écrans. Cette semaine, vos voyeurs sont moi-même, Yannick Belzil.
Et moi, Alex Rose.
Alex, on est face à face à nouveau.
Oui.
On est là pour parler du Apex de Ben Affleck moderne.
Le film le plus Ben Affleck de tous les films de Ben Affleck. Incluant les films qu'il a lui-même écrits et réalisés.
Exactement. C'est un film qui... une mise en abîme, un reflet en même temps, un cube, un hypercube, toutes les dimensions sont dedans. On est là pour parler de Gone Girl. On va aussi parler du film Ego Trip, mais avant ça, on va discuter de quelques petites nouvelles.
Ben avant, on a une nouvelle concernant le podcast qui va être annoncé. En partie reliée justement au fait que là, on est en face-à-face aujourd'hui, qu'on ne l'était pas la semaine prochaine. Le podcast va changer de journée de sortie.
Mm-hmm.
Il va sortir maintenant le samedi matin ou le samedi à minuit plutôt. Parce que justement, maintenant que j'ai une... C'est depuis qu'on fait ça, j'ai jamais eu une job à temps plein où je devais me mouvoir.
C'est exact.
Et donc, ça complique un peu les choses. Ça va nous donner l'opportunité d'avoir une journée de plus dans la semaine, dans le fond, pour potentiellement ça. Parce que, tu sais, l'affaire, c'est pas si compliqué que ça de se voir. On n'a pas d'enfants, on n'a pas tant d'affaires que ça qui nous empêchent. Mais il faut les regarder, ces films-là.
Ouais.
Fait que si, mettons, on anime deux quiz dans la même semaine, puis il y a un film, puis, tu sais, ça nous laisse de moins en moins de soirées pour faire le podcast.
C'est exact.
Et donc... on va s'ouvrir le jeudi, potentiellement même le vendredi soir, quoique. Quoi de plus winner que d'enregistrer des podcasts le vendredi soir? Hein?
C'est très cool à ce qui concerne.
Mais c'est ça, fait que tu sais, juste pour donner une journée de plus, fait que j'espère que ça va pas bouleverser vos habitudes trop. Mais donc cet épisode-là va sortir vendredi matin, comme là, vous l'entendez sans doute vendredi matin, puis celui de la semaine prochaine va être le samedi matin.
Saturday night is the night for podcasting.
Exactement.
Or for podcast listening, comme l'a chanté Elton John.
C'est ça. Allez, quand vous allez chercher votre baguette le samedi matin, je sais pas, les petits beurres, qu'est-ce qu'il y a d'autre que tu vas chercher?
Des crotons, un bagel.
Oui, voilà.
Tu te diriges lentement vers un brunch, peut-être.
Quand je pense à ça, je pense toujours au film L'argent de poche de François Truffaut. Ça n'a pas rapport, mais dedans, il y a une scène qui est comme un long traveling où on suit un enfant français. Sa mère, elle dit, va chercher une baguette, genre, puis il est vraiment petit, là, il a, tu sais, 3-4 ans, mettons. Puis il traîne la baguette par terre, tu sais, comme tout le long, puis c'est un long, tu sais, de la caméra le suit. Puis je pense toujours à ça quand je pense à aller chercher une baguette. Tous les fois que quelqu'un dit le mot baguette, je pense à ce petit gars-là, parce que je trouve que ça a vraiment l'air de... Il y a plein de garnottes après sa baguette. Tu peux pas demander à un petit enfant comme ça d'aller chercher du pain.
Non,
bref,
non.
Cette scène-là me hante, puis... Quand quelqu'un parle de baguette, j'y pense. Puis là, vu que je me suis dit, on est dans un podcast de cinéma, je suis aussi bien de déverser qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau.
Ouais, absolument.
Dans un micro. Sinon, pourquoi sommes-nous ici si ce n'est que pour cela?
Écoute, si on parle d'association cinématographique de baguette, moi, j'en ai une toute nouvelle maintenant depuis quelques mois. Si tu me parles baguette, je pense à Michael Wilkinson dans Michael Clayton qui se promène dans la rue Tom Wilkinson qui se promène avec... un sac comme 18 baguettes dedans parce qu'il est dans un genre d'épisode maniaco-dépressif. Puis tout le film, George Clooney, Michael Clayton, le cherche. Puis finalement, ils font juste se croiser dans la rue Nowhere. Puis ça représente... Ça recrée vraiment la sensation palpable de... Tu rencontres quelqu'un dans la rue que toi, tu voulais pas le voir, mais là, faut que tu parles avec, t'essaies de parler d'autres choses,
de
votre trouble que vous avez ensemble. Puis Wilkinson, il est comme, « Hey, as-tu goûté à ces baguettes-là? » Et là, il sort une de ses 16 baguettes, puis il donne. Quand mort dedans, là, t'auras jamais mangé une bonne baguette de même. Là. En tout cas, je fais semblant que je suis pas impliqué dans une genre de conspiration légale.
Ciao, bye.
Puis ça reste marqué pour moi maintenant. Je vois quelqu'un, c'est pas une dans la rue avec juste 3 baguettes. Je suis comme, « Wilkinson en avait... » au moins 13 de plus.
Ça donne une bonne catégorie pour les prochains quiz, ça, les questions baguettes.
Oui.
Questions sandwich, mais questions baguettes aussi. Fait que c'est ça. Bref, baguette et samedi matin, whatever.
Avec vos baguettes, vous allez maintenant avoir les voyeurs de vue avec vous. Avant de parler de nos films aussi, on voulait parler des films nominés aux Oscars.
Ça, oui,
les nominations sont sorties aujourd'hui.
Sorties ce matin, à l'heure où on se parle, nous. Ben, un peu surprenant, c'est Everything Everywhere All at Once qui a le plus de nominations avec 11.
Oui, 11.
Ce qui est quand même beaucoup. Ouais. Puis qui est quand même surprenant pour ce film-là. On en a pas. Ben moi, j'étais pas à l'émission quand ce film-là est sorti. Là. Fait que je pense que t'en avais parlé avec quelqu'un, j'imagine.
Oui, je me souviens pas avec qui j'en ai parlé cependant. C'était peut-être avec Guilla, avec la passion du podcasting.
Ouais.
Mais tu sais, moi, je l'avais vraiment beaucoup aimé. Tu sais, ça m'avait vraiment beaucoup ému et même fait pleurer.
Ouais,
Parce qu'il y a comme une des grandes notions, en tout cas, moi, qui est venu me chercher dans Everything Everywhere All at Once, c'est. L'idée du potentiel manqué, mais que tu peux encore accéder à ce certain potentiel-là que tu as en toi, même si tu es plus vieux dans la vie, puis que ta vie a peut-être pas été comme tu voulais aller. Ça, c'est quelque chose qui me vient me chercher de plus en plus alors que je m'en vais vers la tombe. Bien que je suis content.
On s'en va tous vers la tombe.
Ouais, mais il y en a qu'on est plus. Écoute. Comme Vincent Vallière l'a dit dans On va s'aimer encore, des
à
fois,
la fin de Ego
à la fin de Ego Trip, finalement, des fois, à un moment donné, il y en a moins en avant que nous autres, puis il y en a plus derrière.
C'est sûr.
Ça est venu me chercher beaucoup, j'avais bien aimé ça. Je l'ai vu deux fois en salle, puis je dirais que la deuxième fois, la première fois, j'étais comme oh yes, let's go. La deuxième fois, son trop plein d'énergie. Me comme rebuté un peu. Je trouve que c'était encore un fucking bon film, mais là, c'était comme ça marchait moins bien.
Ben, une fois que t'es comme, que t'es habitué et que tu t'attends à ça et que t'es un peu comme. Tu sais, c'est un peu qu'est-ce que. Quand, dans l'épisode de Scott Pilgrim, c'était un peu ça qui est arrivé. Moi, j'avais adoré Scott Pilgrim quand je l'avais vu, quand j'avais l'âge de Scott Pilgrim. Puis quand on l'a écouté pour le podcast en 2020, j'imagine. J'avais comme été un peu comme astique, c'est tannant. C'est comme, tu sais, l'énergie me gosse de ça. Puis je pense que c'est parce que ça te prend vraiment moins par surprise, peut-être, que quand tu le vois la première fois, tu sais.
Ouais.
Cet effet-là, il est pas là, fait que là, tu dois te rabattre. Ben, pas te rabattre, mais là, tu l'approches d'une autre façon. Puis des fois, ben, ça peut se tenir entre toi et les autres affaires que t'as à je pense que ça arrive beaucoup avec des films extrêmement stylisés ou énergétiques, là. Ou le même principe que, comme on a déjà parlé, moi, Damien Chazelle, la première fois que je vois un film de Damien Chazelle, je suis comme, waouh, c'est incroyable. Là, si je le réécoute, je suis comme, Tu sais, le momentum est pas pareil la deuxième fois que tu le vois, tu sais. Mais moi, j'ai juste vu une fois, j'avais vraiment quand même beaucoup aimé ça. Même si ça fait beaucoup d'affaires un peu wacky, justement, tu sais, de multivers et tout ça, que ça vient pas me chercher, tu sais, comme moi, c'est ça qui m'a peut-être empêché d'être touché par ce film-là. Parce qu'il y a trop de pas de rupture de ton, ça serait niaiseux à dire, mais tu sais, comme c'est ça va partout, c'est everything everywhere all at once. Mais j'aime bien ça. Tu sais, je suis quand même surpris que ça ait autant de nominations.
4 nominations de acting en plus que ça c'est vraiment comme surprenant.
C'est
là.
Surprenant. Puis tu sais, je te dirais, Jamie Lee Curtis, le monde, t'sais, elle a comme un genre d'arc de rédemption pour ce film-là, qu'elle avait pas besoin. T'sais, je sais pas d'où c'est que ça vient, ça. C'est comme She's Back. Ouais, elle a toujours été là.
Toujours été là, puis ça fait comme 3 Halloween que le monde, pour la plus. Ben, le monde aime le premier, il aime moins les deux autres, mais il l'aime, elle, dedans. Pareil, fait que c'est ça, elle a pas de problème, rien là-dedans.
Mais donc, c'est ça, mais c'est sûr que pour les Oscars, c'est un peu surprenant. C'est pas vraiment le genre de film. Mais tu sais, c'est un peu un film qui.
Mais je pense que l'aspect drame familial, c'est ça qui fait rentrer par la porte aux Oscars.
Tu sais, ça chevauche les générations quand même. Tu sais, je sais qu'il y a probablement des gens qui sont l'âge de nos parents, mettons, pas nécessairement attirés par tout le kung-fu et les doigts en saucisse, toutes ces affaires-là, mais tu sais, il y a quand même quelque chose pour eux là-dedans quand même. Fait que je peux comprendre peut-être pourquoi ça parle à plus de monde que quelque chose de juste jeune comme.
Bodies.
Oui, exact.
Je l'ai pas vu, mais ça m'a l'air très jeune.
Ouais, c'est très jeune. C'est mais, très. Des jokes de woke, là.
Ça serait cool que ça gagne, mais moi, je dirais encore là, j'ai pas toutes les catégories infuses. Mais moi, ce que je trouve qui serait vraiment cool, le plus important pour moi, comme j'ai souvent dit, moi, les Oscars, je m'en crisse un peu. Mais je trouve ça intéressant de voir qu'est-ce qui gagne, puis. T'sais, comment que ça chiffre peut-être pour l'industrie, puis qu'est-ce que ça. Les retombées de ça m'intéressent cependant.
Mais je dirais que ça devient de moins en moins important, malheureusement. Puis à cause que ça se démocratise. T'sais, cette année, il y a Avatar qui est nominé pour meilleur film, il y a Top Gun Maverick.
Ouais.
T'sais, c'est une bonne chose dans un sens. Parce que, tu sais, bon...
Faut que dans le Best Picture, faut qu'il y ait quand même une bonne poignée de films que le monde a vu quelque part.
C'est ça. Mais l'affaire, c'est qu'avant, là, les films que tout le monde avait vus, c'était des films qui n'étaient pas juste des affaires où tout pète. Tu sais, comme un film, un drame légal, tu sais, genre Kramer vs. Kramer qui a gagné, mettons, en 1979, qui est une affaire de divorce, c'est le deuxième film le plus vu de cette année-là, je pense.
Ouais.
Fait que, tu sais... C'est ça qui est poche un peu, c'est que là, il y a un écart, puis ça, c'est pas la faute des Oscars, il y a un écart qui se forme entre le cinéma populaire et le cinéma de qualité, dans un sens, tu sais. Puis je dis pas qu'Avatar 2, c'est pas du cinéma de qualité, mais c'est du cinéma populaire avant d'être comme, tu sais,
ouais,
quelque chose qui parle, mettons, aux adultes, pour ainsi dire. Fait que c'est là que ça devient intéressant, ça devient weird. Je m'en crisse plus parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus... Les Oscars deviennent un peu comme un... C'est un honorific, là, tu sais, tu le donnes, genre, pas parce que tu le mérites nécessairement, que c'est comme politiquement, socialement, basé sur le standing de la personne, pis ci, pis ça, tu sais, ça pourra toujours été ça, tu sais. Mais c'était, j'ai l'impression que c'était plus imprévisible avant. Tu sais, on le sait, tu sais, comme, mettons, quand Banshees of Inisherin sort, tu dis, ah, OK, ça va être nominé pour ça, 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 parce qu'il n'y a pas assez de films... passer de bons films qui fit, tu sais,
dans les rubriques là.
C'est ça. Fait que tu sais, puis c'est ça, quand tu regardes les nominations de même il y a genre 25 ans, il y avait des affaires imprévisibles qui se passaient. Puis là, je trouve que c'est assez prévisible. C'est imprévisible dans un sens qu'il y a 4 catégories de acting de Everything Everywhere All at Once, mais pas tant que ça non plus, pas avec le landscape présent des Oscars.
Ouais.
Fait que c'est ça. Moi, je, tu sais, ça serait quoi ton... Fait que toi, tu te prends,
Moi, l'affaire que je trouverais cool, ce que je cheerleaderais, c'est... Ben, regarde, c'est mon seul conflit, c'est que j'aimerais ça que Michelle Yeoh gagne un Oscar pour comme l'ensemble... Ben, tu vois, ce que tu viens de raconter, c'est que je pense qu'il y aurait une notion de c'est l'ensemble de l'œuvre de Michelle Yeoh.
C'est la première femme asiatique. C'est la deuxième femme asiatique de toute l'histoire à être nominée pour un Oscar... de Best Actress. Puis la première, c'était Merle O'Brien qui était asiatique, mais qui le cachait, que ça faisait pas partie de ça. Puis c'était comme dans les années 30. Là.
Ok, ouais.
Fait que tu sais, ça serait une affaire de EDI, comme on dirait dans la parlance de mon travail. Là.
Ouais.
Mais tu sais aussi, parce que Michelle Yeoh, c'est sûr qu'elle allait pas gagner pour Police Story ou pour Yes Madam. Là,
ouais, ben c'est ça. Elle aurait dû. Mais, mais non, mais c'est ça l'affaire, c'est que tu sais, c'est la même façon que Everything Everywhere All at Once est comme une célébration de elle en tant qu'actrice, parce que ça montre que ses fans comme moi savent depuis toujours ce qu'elle peut tout faire. Là, ils ont fait un film où ce qu'elle pouvait tout faire, ce qui est aussi un genre de polyvalence qu'habituellement l'Académie aime, là, de montrer, de, soit de te transformer pour un rôle, mais là, tu vois que tout ce qu'elle peut faire, puis j'aimerais ça qu'elle gagne, mais l'affaire, c'est qu'elle est contre. Sa seule compétition, pour moi, c'est Kate Blanchett avec Thor, qui crée vraiment, puis qui porte un personnage vraiment singulier, puis vraiment fort, et... L'affaire avec ça, c'est que je suis comme, ouais, mais Kate Blanchett, d'autres matériels qui vont lui donner accès à des nominations vont arriver.
Ça, c'est sûr.
Tandis que Michelle Yeoh, autant que j'espère que oui, je ne suis pas sûr que c'est ça qui va arriver, qui lui arriver à elle. Fait que j'espère qu'elle va gagner, puis je dirais que c'est le seul cheval que j'ai dans cette course-là, c'est ça. Puis je serais aussi intéressé de voir c'est lesquels en scénarisation. Mais avant, je pense qu'on aurait juste nommé les meilleurs films, le Best Picture. Fait qu'en nomination, il y a Thor, Elvis, Avatar The Way of Water, All Quiet on the Western Front, qui est comme la présence Netflix cette année. Un film comme, tu sais, moi je l'ai vu sur le service, mais il n'y a pas vraiment de hype pour, mais je suis curieux.
Il est arrivé quelque chose, là, je sais pas, parce que c'est un film allemand en plus, c'est même pas un film américain. Mais...
The Fablemans, Triangle of Sadness, Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All at Once. Un film bien coté au voyeur de vue, Woman Talking, et Top Gun Maverick. Comme je l'ai dit sur Twitter ce matin, ma plus grosse surprise, c'est que Top Gun et Avatar soient là toutes les deux, parce qu'il y a une époque où il y avait juste un blockbuster, là il y en a deux, mais ça, je pense que c'est comme chapeau bas, vous avez mis du monde en salle, vous êtes des artisans de blockbuster, vous n'êtes pas de la moulée de super-héros, parce que à chaque fois qu'il y a une affaire de super-héros, j'ai toujours l'impression que... L'Académie est comme bah, ok, là, on n'a pas le choix, là, mais c'est ça. Mais sinon, tu sais, il y a juste Triangle of Sadness puis All Quiet on the Western Front que j'ai pas encore vu,
ouais, okay.
Que je compte combler. Mais sinon, je trouve que c'est un line-up qui a bien de l'allure, là, tu sais, c'est des films.
C'est ce qu'on s'attendait, là, tu sais, je veux dire, il n'y a pas tant de snobs, là, comme on dirait en anglais. Là, j'ai vu beaucoup de monde qui sont fâchés que Woman King soit pas là.
Mm-hmm.
Je sais pas, tu sais, Woman King, on en a pas parlé ou pas. On l'a vu ensemble.
On l'a vu ensemble, mais on n'a pas parlé.
Je pense que je travaillais encore pour le gouvernement. C'est correct, puis oui, dans une certaine mesure, c'est le genre de film qui, avant, aurait gagné des Oscars. T'sais, c'est comme un film de Mel Gibson.
Mm-hmm.
Mais là, je pense qu'on est comme ailleurs, mais c'est sûr que t'sais, là, la représentation est importante.
Ben, il y a l'aspect représentation, puis je pense aussi que, t'sais, encore là, tu parles de film de Mel Gibson, on parle d'un genre de Braveheart. Là, t'sais. Mm-hmm. C'est un genre de film qui existe moins, puis là, à cette heure... Ces genres-là, on est comme, enfin, il y en a un. On est dans le désert, puis on a de l'eau fraîche, là, t'sais.
Mais c'est ça, tu sais. Il y a 25 ans, Woman King aurait peut-être été là, mais Thor aurait pas été là, tu sais.
Mm-hmm.
Puis Banshees of Inisherin n'aurait pas été là, tu sais. Fait que.
Il y aurait une nomination de acting pour Banshees of Inisherin max.
Ouais, puis peut-être un screenplay. Mais tu sais, c'est ça. Fait que je pense que ça a changé de façon bizarre. Mais là, c'est sûr que, tu sais, ce qui est plus weird, c'est que. Il y a pas tant de films que, tu sais. Il n'y a pas grand chose que tu es comme. Comment ça, c'est pas là? T'sais, le monde s'est fâché. Decision to Leave n'a pas été dans les 5.
International.
International. Mais international, c'est fucké parce que chaque pays doit nominer un seul film, mm-hmm, pour se rendre. Il y avait une controverse que RRR n'a pas été nominé. Mais
justement, l'Inde l'a pas nominé.
L'Inde l'a pas soumis. Fait que genre, il peut pas être nominé. Il peut être nominé dans toutes les autres catégories. Il a été nominé pour la chanson. Là.
Pour Natu, oui.
Ouais. Mais t'sais, en tout cas, bref, je sais pas. T'sais, ultimement, on s'en crisse un peu.
Mm-hmm.
Des Oscars, tu sais, aimez ce que vous voulez. Le fait qu'un film gagne un Oscar le rend pas meilleur pour vous, puis le fait qu'un des films que vous adorez est pas dedans, fait pas qu'il est moins bon.
Absolument.
C'est juste, on s'en crisse. Je trouve ça intéressant comme affaire, comme prendre le pouls de qu'est-ce qui se passe, tente le pouls. Mais tu sais, sinon.
Tu sais, ultimement, on aime tous les sports prendre pour une équipe. C'est juste que à place d'intéresser au sport, peut-être c'est les Oscars cette fois-là, puis des affaires comme ça. Là. C'est le mécanisme est là.
C'est ça. Puis, tu sais, j'ai hâte de voir. Je vais sûrement le regarder. C'est
qui est ton meilleur scénario?
Best Original Screenplay, il y a Banshees of Inisherin, Everything Ever All at Once, Fablemans, Thor et Triangle of Sadness. Puis, dans les adaptations, il y a All Quiet on the Western Front, Glass Onion, Living. Qui est un. Je sais pas si. Ah, c'est le film avec Bill Nighy, ok, ouais, ouais. Qui est un remake de Ikiru, de Akira Kurosawa.
Mm-hmm.
Top Gun Maverick et Women Talking.
Ok, ouais, ben c'est. Bon, ouais, c'est des bonnes. C'est du bon showing, là. Tu sais, je suis d'accord avec tout ça. Moi, mon pick là-dedans serait probablement Banshees pour. Parce que c'est tellement limpide, clair et simple et riche en même temps que c'est quasiment un tour de magie. T'sais, comme Thor, c'est comme un tour de magie aussi, mais c'est vraiment complexe.
J'ai toujours pas vu, faut vraiment que je le regarde, mais ça. Je sais pas, là, c'est en train de s'échapper de moi. Là. Aujourd'hui, j'ai vu des spoilers, là, j'étais genre calice. J'ai trop attendu longtemps.
Regarde, moi je sais qu'il y a une raison que tu vas connecter avec Thor, c'est que ça commence avec Lydia Thor qui se fait tailler un outfit.
OK.
Puis j'ai comme qui est vraiment comme qui est vraiment sick, puis là comme vraiment comme cette précision là, je pense que t'apprécies un bon fit. Ouais, quand je regardais le film, je suis comme ah, j'aimerais savoir l'argent pour faire ça. Je pense que tu vas passer la même chose,
okay,
aussi.
Okay.
Mais bref, ce sera mon cheerleading de Thor pour ce soir.
Mais c'est ça, comme là dans là, je suis pas trop pire, je me rattrape, mais il y a plein de films cette année que j'ai pas vu, tu sais, dans des années précédentes, j'aurais pas été dans cette situation là à pareille date. Là. Fait que tu sais. J'étais un peu en retard, puis là, il y en a qui sont comme... Tu sais, comme The Whale est encore juste au cinéma. Tu sais, il y a des... Top Gun, je sais pas pourquoi j'ai pas... J'ai plus d'excuses, là. Il est partout, esti, genre...
Ouais, t'sais. Ouais, il est sur Paramount Plus.
Ouais, ouais, ben voilà.
Je me suis abonné à Paramount Plus pour écouter un film l'autre fois, fait que je l'ai pour un mois à peu près. Là. Au pire, mais... on se fera un petit viewing à la maison.
Je peux en parler là, parce que le quiz va être passé par le temps que cet épisode sort. Mais tu sais, il y a plusieurs films dont on fait mention dans notre quiz du cinéma moderne que j'avais pas vu. Mm-hmm. Fait que là, j'étais comme, il faudrait que genre je me rattrape, tu sais, pour avoir vu ces affaires-là d'ici demain, à l'époque, à la, où là où on se parle. Puis j'ai regardé Paradise City puis Dog. Fait que tu sais...
Écoute, t'es Chekhov. T'es Chekhov.
C'est aussi, je pense, parce que tu sais, veux pas... Quand il y a un bon film, puis tu veux, t'as quelqu'un dans ta vie, tu veux peut-être le regarder avec eux autres.
Ouais, ouais.
Jamais que je, ma blonde avoir regardé Paradise City avec Bruce Willis et John Travolta avec moi, elle ne devrait pas non plus.
Non,
personne
n'a besoin de faire ça. Vu que tu l'aimes, non, elle ne devrait pas faire ça avec
personne
toi.
Personne n'a besoin de faire ça. Fait que tu sais, je pense que c'est un peu ça aussi. Là. J'attends le bon moment pour l'apprécier pleinement, mettons. Mais c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir, puis Dog, c'est quand même correct. Paradise City, c'est pas bon, par contre.
Non, non, ça avait l'air assez rough. Un film qui m'a dit John Travolta et Bruce Willis. Ouais. Qui...
Et Stephen Dorff.
Colin, Chris, ça me rappelle. Stephen Dorff qui a dit qu'il trouvait ça niaiseux puis qu'il avait honte pour Scarlett Johansson qu'elle fasse des films de Marvel. Fait que, regarde. Lui qui faisait si belle figure dans Blade, jadis.
Il a l'air d'avoir honte, mais ça, je suis surpris, Stephen Dorff, parce que, tu sais... Stephen Dorff, c'est comme Mickey Rourke dans le sens où il faisait des films de merde. Après ça, il y a eu comme une opportunité de faire un comeback avec Somewhere, de Sofia Coppola. Là, ça lui a donné des légèrement meilleurs rôles, mais pas vraiment.
Mm-hmm.
Là, il a fait True Detective saison 3, puis là, t'es comme, oh, he's back. Continue à faire de la merde. Tu sais, je pense que c'est vraiment comme un trou de cul, puis il est pas smart.
J'avais vu un writer de télévision puis de film sur Twitter un moment donné dire comme, des fois, quand vous demandez, là, un acteur que vous aimez vraiment, comment c'est ça qu'il travaille pas plus, là?
Ouais, c'est ça.
Il y a deux affaires. Soit c'est une personne qui est vraiment comme orientée vers sa famille, puis qui est comme fait juste travailler, puis après il passe du temps avec sa famille, ou il est peut-être juste fucking désagréable ouais. À travailler avec, puis le monde veut pas travailler avec souvent.
Je pense que
là.
C'est essentiellement ça qui arrive avec Mickey Rourke, là. Fait que, tu sais, le monde qui l'emploie dans des films de série B, comme Stephen Dorff, peuvent pas vraiment se permettre de pas se laisser crier après par Mickey Rourke, tu sais.
Ouais, ouais.
Tu sais, fait que. Comme le film existe parce que ils ont eu de l'argent de des Serbes ou je sais pas trop quelle crise d'affaires pour, parce que Mickey Rourke est rattaché à ça. Fait que, tandis que s'il est un trou de cul dans un rôle de soutien dans un film de Terrence Malick, ils vont juste le couper ou genre le mettre dehors ou whatever. Fait que, mais c'est ça, Stephen Dorff, il a eu plusieurs opportunités de se racheter. Puis là, maintenant, il joue un dude qui est au début de Paradise City. Là, se fait kidnapper, il disparaît tout le film. Et on le trouve à la fin.
Tabarnak.
Fait que, tu sais, c'est.
Mais parlant de. Je vais juste faire cette petite parenthèse-là. Parlant justement de Mickey Rourke. L'autre fois, ça, à TV, sur le câble, j'ai pogné un petit bout de Iron Man 2. J'ai pas eu en fait la meilleure scène de Iron Man 2 quand Mickey Rourke avec ses gros fouettes électriques attaque Tony Stark à la piste de course à Monaco.
Oui.
Bien que j'aime les films de Marvel Studios, à Star, c'est vraiment comme des films faits avec beaucoup de green screen tournés dans les stationnements. Puis avec de la correction de couleur assez terne, tu sais, ça pop pas ouais, tant ouais. que ça. Puis Iron Man 2, qui est vraiment comme dans mes bas-fonds des films du MCU. Le directeur photo, c'est Mathieu Libatic.
Ouais, ouais, ouais.
Puis, cette scène-là, c'était tellement beau, là. Comme, il y avait des angles, il y avait des couleurs qui popaient. Puis là, j'étais comme, Chris, Iron Man 2, il est-tu bon? Puis, il y a trop de films que je suis pas mal sûr qu'ils vont être bons. Que je veux écouter, que je vais pas prendre le temps de réécouter my Iron Man 2, genre pour faire un heat check d'Iron Man 2, voir si finalement c'était bon. Finalement, je sais que c'est pas bon, mais pendant un instant, juste ces visuels-là, j'étais comme, hey, j'ai une conversation Facebook avec des amis, quand c'est juste nos affaires de nerd qu'on parle. J'étais comme, guys, j'ai quasiment le goût de redonner une chance à Iron Man 2, je viens d'écouter 15 minutes. Mais bon, quand vous allez me voir loguer Iron Man 2 sur Letterboxd, là, ça veut dire que j'ai comme trop de temps libre. Peut-être que je suis sur un avion ou une chute de même.
Ouais.
Mon cher, maintenant, il faut qu'on passe à un de nos films de la semaine.
Oui, oui, oui.
Alors, on va passer par un film. On continue notre voyage à travers le film québécois. Puis ce qui est devenu aussi, de façon stealth, une mini-série de Patrick Huard.
Mm-hmm.
Fait qu'on est comme Huard à Fleck Huard dans les derniers épisodes.
Ouais, effectivement.
On a parlé d'un film réalisé par Benoît Pelletier, que j'ai mentionné qu'il était un de mes professeurs à l'école de l'humour en scénarisation. Et qui était, ma foi, un super bon prof et un super bon writer. Un film aussi qui est réalisé par lui, qui est écrit par François Havard.
Oui.
Un film de 2014?
2015.
Plus les années sont proches de nous, plus c'est désolant.
Mais, ouais, puis l'affaire qui m'a vraiment mystifié, c'est que je me souviens pas que de ce film-là. Tu sais, comme...
Je me rappelle vaguement de ce film-là.
Je me souviens que le poster était calé. C'est encore le poster, tu sais, le poster qu'il y a sur... il est sur Crave et Prime, by the way.
Ouais,
sur les deux.
Vous avez aucune excuse.
Mais ce poster lettre-là, photoshopé, de Patrick Huard avec une valise sur un fond blanc.
Et un bout de sa chemise qui sort de ses pantalons.
Oui, aussi.
Là, les gens, ils nous entendent décrire ça. Ah, oh, ils parlent du poster de Ego Trip.
Oui, c'est ça.
Immédiatement, ils savent, c'est de Ego Trip qu'ils parlent.
Je me souviens d'avoir vu ce poster-là, tu sais, comme sur des buildings désaffectés, là, whatever. Mais je me souviens pas de ce film-là, comme, tu sais. Puis je travaillais à Corde. Je suis allé voir. J'étais allé dans la presse. Bon, la presse existait sur Internet dans ce temps-là, mais je suis allé dans les archives papier. J'ai checké les autres films qui sont sortis en même temps que ça, puis j'étais comme... C'est la sortie de la même semaine que Magic Mike XXL. Fait que je travaillais à Colt dans ce temps-là, là.
Mm.
Je voyais des films, là, tu sais. Puis j'ai aucun souvenir de la sortie de ce film-là. C'est comme si ça n'a jamais existé.
Comme... Ben, en effet, c'est comme... Mettons, François Havard, qui est tout de même comme un des auteurs plus connus au Québec, c'est comme... Ça aussi, c'est comme un bled dans sa carrière, c'est disparu, ça...
Ouais, exact. Ben, c'est comme un film, genre, tu sais, puis il y a aussi l'affaire que, bon, il y a eu Guy Bars s'en va en guerre de Philippe Falardeau,
mm-hmm.
qui est sorti un peu plus tard, qui met aussi en vedette Patrick Huard et un dude haïtien, tu sais, qui se passe en Abitibi, en fait, il me semble, ou comme même plus au nord que l'Abitibi, là.
Écoute, je sais pas, mais c'est clair, vu notre trajectoire,
on va le regarder éventuellement. Mais tu sais, je pensais à ça, j'étais comme, Chris, il y a 52 semaines d'une année, hein. Fait que maintenant, on va en avoir vu en crise des films québécois, là.
Écoute...
On est qu'en janvier, là, puis j'ai l'impression que, tu sais, je scroll à travers, puis je suis comme, il me semble qu'on a regardé beaucoup ces hosties de films-là, déjà.
Puis on va continuer. C'est-tu que j'ai hâte qu'on se rende au lac mystère, là? C'est-tu que ça va être le fun?
Fait que bref, c'est ça, c'est l'histoire des Ego Trip.
Oui.
On a Patrick Huard qui joue Marc Morin.
Marc Morin, oui.
Qui est un animateur de talk show genre.
Qui est un animateur de talk show.
Qu'est-ce qu'il est supposé d'être?
Il est comme... On est supposé penser qu'il y a un talk show avec des invités qui est toute la semaine, un peu à la... Jadis Adlib, Jean-Pierre Coallier, qui est comme un genre de talk show que mettons, ça existe plus autant ici. Là. C'est comme un 4 juillet, un pré-4 juillet,
ouais,
un proto-4 juillet. Il parle de comment qu'il est... J'avais l'impression que des fois, qu'on était comme supposé penser que c'était comme... Peut-être un peu Guillaume Lepage, mais pas Guillaume Lepage vraiment. Mais tu sais, il est comme un composite de plein d'affaires qui vient à pu exister puis à pu être précis.
Puis tout ce qu'on le voit faire pratiquement quand on le voit faire des trucs, c'est... des monologues, tu sais, comme de Jay Leno, là, genre.
Ouais.
Fait qu'il anime une émission, puis il est pas populaire parce qu'il est un trou de cul, puis personne l'aime. Le monde veut plus venir à son émission. Il y a plusieurs gags faibles de lui qui parle au téléphone avec quelqu'un de connu.
Comme on sait, les animateurs, c'est eux autres qui vont aller chercher leurs invités.
C'est ça, qui font leur booking seul.
Mm-hmm.
Fait que ça va pas super bien dans sa vie, puis là, dans sa vie personnelle non plus. Dans le fond, ses enfants, son fils a toujours la bouche pleine. Fait que ça, c'est un problème.
Mm-hmm.
Ludivine Redding, qui est sa fille, est baveuse avec lui parce qu'elle le trouve cave. Puis sa femme, Sandrine Bisson, elle est genre, oh, tu travailles trop, viens au match des pros de notre fils qui a la bouche pleine. Puis lui, il veut manger du steak puis boire du vin. Puis c'est sûr qu'il est un peu.
Tu prendras un autre, s'il te plaît.
Il est un peu basé, j'imagine, tu sais, plus sur. Richard Martineau ou Éric Duhaime, j'ai l'impression.
Ben, ça c'est quelque chose d'intéressant que tu dis parce que au Bye Bye, Patrick Huard a fait un Éric Duhaime.
Ouais, il était très bon.
Il était très bon, il était très drôle. Puis, je trouve que dans sa posture, veston bleu marin,
ouais.
mauvaise couplier, face plus molle. Il faisait vraiment son proto-Duhem drette là. Des fois, j'avais l'impression que ça devenait un deepfake d'Éric Duhem, puis qu'après, ça dormait sa face. Là.
Mais tu sais, il est un peu. C'est ça, il est comme un peu. En fait, il est aussi comme un genre de mouthpiece de François Havard. Tu sais, il haït tout. Tu sais, lui, il est contre la société, il est contre tout. Tu sais, puis il est très aigri, puis ça l'aide pas dans sa carrière. Et donc là, son manager, Antoine Bertrand.
Ouais.
Lui concocte un plan.
Qui est supposé être comme crotté, véreux, mais je trouve qu'Antoine Bertrand, il a, de façon récente, il a tellement comme une bonhomie puis une énergie positive que ça ne colle pas vraiment.
Il n'est pas très véreux, non, effectivement. Il concocte un plan, donc il va travailler pour un OBNL qui s'appelle SOS. Quelque chose, en tout cas, bref, un OBNL.
Vision mondiale, mais avec un autre nom.
Exact. Donc, il va aller en Haïti aider les gens parce que c'est après le tremblement de terre. Il va aller en Haïti aider les gens et avoir l'air d'une bonne personne et ainsi redorer son image et ne pas perdre son show.
Ouais.
Parce que, bon...
Son show se faisait comme 15...
Bombé par le patinage artistique.
Oui, canadien. Pendant deux semaines. Fait que pendant deux semaines, tu vas aller en Haïti puis le monde va t'aimer.
Précisément. Donc, il se fait envoyer donc avec une équipe qui est composée de Guy Jodoin, qui est un genre de photojournaliste woke, là, genre.
Qui génère des prémices pour se faire crier après par Patrick Huard.
Exact. Tu sais, puis qui est comme un homme avec des sentiments, fait que genre Patrick Huard l'haït, puis... Et aussi la responsable des coms, Nathalie Chabot, jouée par Marie-Ève Milot. Qui est pas une comédienne que je connais du tout, je sais pas, elle doit jouer à TV. Hein?
Je l'ai vu à travers une couple de shows, fait que ouais, quand je l'ai vu, je suis comme ah ouais, elle est là, puis ben, ça c'est des shows que j'ai vu récemment, et ce qui veut dire que comme 7 ans plus tard, elle est absolument identique. Là,
ouais, puis elle est un genre de personnage de Zoé Deschanel avec un toupette, là.
Ouais, exactement.
fait qu'elles autres, puis aussi, ah oui, puis Samy qui est un genre de rapper haïtien, canadien, moi, je pensais que c'était supposé d'être Corneille. Mm-hmm. J'avais l'impression que c'était une joke sur Corneille, mais...
Parce que Corneille, lui, venait du Rwanda, cependant.
Ouais, mais tu sais, comme... Puis que... Mais tu sais, Corneille, il y a vraiment... Ben, je sais pas. Mais parce que aussi Gardi Fury, qui joue Samy, il était comme dans un band avec Corneille. Fait que peut-être que je suis juste comme mêlé parce que, t'sais...
Ou tu te dis comme... Samy Fury, c'est ça qu'ils pensent de Corneille, peut-être.
Ouais,
ou,
peut-être. Tu sais, parce qu'ils ont comme un... Tu sais, une affaire de... Ils dansent, tu sais, il y a des foulards, puis tu sais, comme... il fait beaucoup de beatbox, puis il se pense... Mm-hmm. Mais tu sais, ça, c'est le personnage le moins bien défini, je te dirais, là.
Ouais.
Il est comme supposé d'être stupide, puis d'être un peu comme dans What, mais c'est pas trop clair, il est souvent pas là. C'est pas trop clair qu'est-ce qu'il fait, tu sais.
Non, mais tu sais, puis là, c'est ça, dans la structure, mettons, traditionnelle que ce film-là est supposé être, c'est que Marc Morin est un homme terrible, mais en allant en Haïti, il va réaliser à quel point que... il était ému de lui-même, il était une mauvaise personne. Et entrer en contact avec ces gens-là est supposé, et les expériences qu'il va vivre là-bas est supposé le faire de lui une meilleure personne, est supposé comme le faire éclore et tout ça. Fait que tu sais, c'est vaguement ça qui se passe dans Ego Trip. Pour ce qu'on en a. Mettons, moi, ce que j'en ai pensé, c'est que, premièrement, c'était un film tout de même difficile à passer au travers à l'occasion. Mais c'est bizarre parce que des fois, il y a des films qui sont comme. C'est juste comme tu reçois la radiation de ceci est pas bon, puis tu te laisses irradier, puis c'est ça qui arrive. Puis des fois, il y a des films où tu vois qu'il y a une coupe de fil que là, tu peux pas t'empêcher de te demander, ben voyons qu'est-ce qu'il essayait de faire, puis pourquoi ça c'est de même, puis pourquoi qu'il y a des affaires qui sont plus prononcées ou solides, puis que le reste est comme vraiment lousse, tout croche, qui mène à rien. Puis je trouve que Ego Trip est dans cette deuxième catégorie parce que. Moi, une des conclusions que j'arrive à Ego Trip, à part que, tu sais, mettons, donner une étoile et demie sur Letterboxd, c'est que...
Moi, une chose qui arrive quand même rarement.
En effet, oui. Parce que j'étais comme, tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est que, je pense que l'axe principal à adresser, c'est que la partie François Havard de tout ça.
Oui.
Puis comment que... C'est essayer de marteler ses émotions et ses opinions à lui dans un film qui est supposé être mainstream. Puis comme, le monsieur s'en va en Haïti, puis apprend des leçons, puis apprend à être gentil. Ça, c'est toutes ces affaires-là sont extrêmement mauvaises et comme bas étage.
Toute la rédemption, tu sais, c'est ça. Fait que tu le sais dès que ça commence qu'il va y avoir une rédemption. C'est évident, c'est écrit dans le ciel. Le personnage est tellement crissement déplaisant au début, là. Puis il est pas le fun, tu sais, puis il est pas, tu sais, comme, il est basé sur tout ce que tout le monde a dit de Chevy Chase, sans le genre de charisme de Chevy Chase.
Ouais.
Que t'es comme, je suis pas sûr que ça me tente de vivre la rédemption avec lui, tu sais.
Non, c'est comme
genre, je suis pas sûr que j'ai acheté ce produit, c'est pas ça le produit que j'ai acheté en dedans des 20 premières minutes, là, tu sais. Ou est-ce que, tu sais, il est comme, il est super condescendant avec son fils. C'est justement que son fils, je ne sais pas trop s'il y a-tu comme un appareil dentaire ou il y a.
Parce qu'il est toujours, je pense qu'il y a un appareil, le bas de sa bouche est constamment en action, là.
Mais ça paraît pas trop. Fait que il est toujours en train de manger aussi. Fait que t'es comme, mais là, tu sais, puis lui, il est comme, il bully son enfant. Tu sais, puis il est pas fin. Puis tu sais, puis t'es juste comme, il est même pas charismatique. Je m'en fous si ce gars-là, il va en Haïti se faire tirer une balle par des terroristes. Je m'en calisse.
Ouais. Parce que, tu sais, une affaire que je veux juste souligner, c'est ça, en voyant ces scènes-là, moi, je pensais, mettons, à Bill Murray dans Groundhog Day. Parce que Groundhog Day, c'est comme un personnage qui est désagréable, il devient comme prisonnier d'un endroit, puis ça le change. Mais
il est forcé à devenir meilleur, par contre, dans Groundhog Day. C'est pas les éléments, tu sais. Il résiste activement à changer pendant vraiment longtemps.
Oui, mais tu vois, cette résistance-là, ou aussi comment qu'il est désagréable auparavant... C'est le fun d'avoir allé parce que c'est comme dans un genre de palette de Bill Murray que t'es c'est un fucker, mais au moins je trouve ça le fun d'avoir allé. Tu sais, c'est un peu comme le je trouve qu'il y a un syndrome qui est arrivé à beaucoup de protagonistes dans les années 2000. C'est comme le syndrome du Dr. House. Hugh Laurie était tellement bon dans ce qu'il faisait que c'était comme, ah, le lead il envoie chier tout le monde pis c'est fucking cool. C'est pas tous les acteurs qui peuvent faire ça pis tu peux pas faire ça avec tous les personnages. Pis justement, ça marche pas, là.
Ouais, c'est ça. Puis c'est pas de la faute de Patrick Huard. Encore une fois, je vais dire, Patrick Huard, étonnamment, toujours assez bon.
Oui, puis il tout le temps bon.
Puis tout ce qui est drôle dans ça, tu sais, une des choses qui est vraiment, à laquelle il est vraiment bon dans ce film-là, c'est lancer le dialogue de François Havard. Parce que François Havard écrit beaucoup de vulgarité. Tu sais, à un moment donné, il est au téléphone, puis il dit à ce petit vieux grugeux de batte du tabarnak, il dit... Là, j'étais comme, ça, c'est bon. Ça, c'est pour ça que ce film-là existe, tu sais, pour des affaires de même. Mais malheureusement, c'est du chiolage aigri de boomer majoritairement. Patrick Huard, il peut pas faire grand-chose avec ça, tu sais, c'est très schématique. On sent plus vraiment l'humain dans ça après pas longtemps, puis on sent juste comme les beats. OK, il va arriver ça, il va arriver ça, il va arriver ci, il va arriver ça. L'humour est pas drôle, en partie parce qu'il y a personne avec qui... T'sais, les gens sont pas assez bien définis pour qu'ils puissent riposter à ces affaires.
Ouais.
Fait que, tu sais, ils se promènent, ils bully tout le monde. Puis le monde, c'est pas assez des personnes. Fait que la fille des coms, elle est méprisable parce qu'elle a pas vraiment de respect comme pour les Haïtiens, puis elle veut faire une job de com. Là, dans
et, le fond. Ouais, et juste là pour créer une image.
Ouais, ce qui est ma job aussi.
Ben ouais, ouais.
Puis, tu sais. Mais ça fait qu'elle est très comme... Tu sais, elle a pas un personnage défini fort. Elle est juste comme là. Puis elle dit Twitter en anglais. Fait que là, genre, tu sens qu'il méprise ça. Là, genre,
ouais,
François
ouais.
Havard. Puis Guy Jodoin, lui, il est comme, tu sais, mou, homme rose, là. Puis, mais presque tout ce que Guy Jodoin... Tu sais, Guy Jodoin est en bobette, puis il chie la porte ouverte, puis ils veulent se coller. Tu sais, il est comme un peu homo-érotique, là, genre. C'est pas drôle non plus, puis c'est comme, c'est one-sided. C'est juste Patrick Huard qui fait, bah, t'es dégueulasse, t'es...
T'es un hostie de con. Puis là, jusqu'à... Puis, tu sais, ouais, c'est ça, comme, il y a jamais un moment où que Guy Jodoin, ben, je suis pas un hostie de con, mais moi, je j'haïs pas ma vie, là, tu sais.
Mais c'est ça. Puis, tu sais, fait que toute la rédemption de Patrick Huard arrive jamais avec des autres personnes qui sont définies. C'est toujours, tu sais, fait qu'il y a une scène, honnêtement, crissement dégueulasse qui m'a donné le goût de m'arracher les yeux. Ou est-ce que Patrick Huard se perd dans la rue? Dans un genre d'activité de je sais pas trop. Puis là, il y a un petit livre, là, que c'est comme français au créole. Puis là, il voit une vieille madame qui est en train d'éplucher des gourganes, ou je sais pas trop. Puis là, il est comme, moi, être perdu, moi, pas avoir mal aux jambes. Puis là, la madame a fait, si vous parliez français, je pourrais vous comprendre. Là, c'est comme, là, il est genre mind blown. Le monde parle français en Haïti, même si, depuis qu'il est arrivé, tout le monde y parle tout le temps en français.
Ouais.
Tu sais, il y a aussi des jokes de monde qui parle en créole, que c'est sous-titré, elle est fâchée. Pis ça m'énerve parce que le créole, il y a quand même beaucoup d'appartenance avec le français.
Oui.
Fait que quand le personnage de la genre de d'organisatrice de je sais pas trop crie après du monde en créole. N'importe qui parle français comprend qu'est-ce qu'elle dit un peu, tu sais, je pourrais pas te le traduire directement, mais tu sais. Bon, fait que là, il s'assoit avec la vieille madame, puis là il dit moi je sais pas ce que je fais ici, je suis venu les aider, mais dans le fond, j'ai rien à faire. C'est juste pour rejoindre leur couple. Elle dit si tous les blancs étaient comme vous, nanana, ça irait bien. Là, il y a genre de magical Negro à faire qui arrive.
Oui,
là.
Oui. Il y a vraiment une ben, tu viens de le dire, le terme magical Negro, ce qui est un thème pour un genre d'archétype hollywoodien raciste ou.
Ouais, comme John Caffé dans The Green Mile, par exemple, ou ouais. Bagger Vance.
Ou un homme noir existe juste pour. Ou un homme ou une femme noire
ouais.
existe juste pour donner de la sagesse à un protagoniste exact. Non noir, puis faire comme. Dans le fond, t'es bien correct. Ce qui est tout le temps un genre de.
Ben, c'est condescendant. C'est raciste, mais c'est aussi. Ouais. C'est condescendant au bout. Parce que, ouais. tu sais, je pense que François Havard. Il est pas comme si que les Haïtiens sont inférieurs à nous autres. Mais il y a quand même cette attitude de white savior, de comme on a beaucoup à apprendre de ce peuple simple qui aime rire. Tu sais, pis c'est comme fuck off. Tu sais, va chier. Genre, c'est vraiment. Comme, moi, je suis pas haïtien, là, je pense que vous savez, mais si j'étais haïtien, je serais genre, man, sérieusement, François Havard.
François Havard, tu te manges une corde à linge, un coup de corde à linge.
Parce que là, le reste de cette scène-là, en plus, c'est. Fait que là, genre, qu'est-ce que vous faites dans la vie, tu sais? Là, il dit, moi, je suis comme un. Tu sais, il explique qu'il est comme un animateur, c'est pas tout à fait un humoriste, c'est pas tout à fait un acteur. C'est juste comme quelqu'un qui est payé pour exister. Puis là, il dit, il vous paye pour ça. Comme si en Haïti, il n'y a pas des talk shows. C'est sûr qu'il y a des talk shows, là. C'est sûr qu'il y a des humoristes, là.
Ouais, t'sais. Quelqu'un connaît. Tu sais, une personne qui a
TV,
pas la TV
là,
connaît une personne qui a la TV.
Ou, ben c'est ça. Ou, tu sais, tu vas quelque part, puis il y a une TV. Je veux dire. Tu sais, même dans la plus. Vous élaborez, genre, cette madame-là, whatever, tu sais, elle vit dans un bidonville, tu sais, à genoux dans la marde toute la journée, whatever. Assez, tu sais, elle a comme 65 ans, peut-être. Assez, c'est quoi une TV?
Ouais.
Tu sais, fait que genre, fait que tu sais, elle vient, puis elle donne, genre, comme du wisdom qui vient de je sais pas où. Puis ce bout-là, il est tellement fake puis pas le fun, puis il clash tellement avec toute l'acidité puis le cynisme du reste du film que c'est là que moi, j'ai trouvé ça vraiment difficile de continuer après ça. Parce que c'est vraiment comme, hey, là, pour vrai, genre, tu me prends pour un crise de cave, tu me prends pour une valise, puis, tu sais, c'est pas le fun de se faire traiter ainsi par un film.
Ouais, mais tu vois, moi, ce qui m'a marqué, ben, justement, pour être dans le avare de toute la patente, c'est justement une scène avec la dame des communications, tu sais. Marc Morin prend des photos avec des jeunes en Haïti, puis là, elle est comme, non, faut pas sourire, faut qu'on enlève le t-shirt pour mettre de la boîte dessus.
Ben ouais.
Les gens qui veulent donner, ils donnent déjà. Faut qu'on aille chercher le monde qui veulent pas donner. Puis ça prend. Faut créer des images qui font pitié. Puis il y a deux, trois scènes comme ça avec ce personnage-là. Puis un peu avec le personnage d'Andon Bertrand qui sont comme ah, ça, c'est le jus satirique qui l'intéresse vraiment. Ouais. C'est là qu'il commence. Puis là, tu sais, comme Patrick Roy est comme non, si ça n'a pas d'allure, tu sais. C'est là qu'il y a comme une électricité, c'est l'affaire qui l'intéresse.
Mm-hmm. C'est une chose que ce film-là a en commun avec Gone Girl aussi, dont on va parler tantôt.
Oui, 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 absolument.
C'est un film qui méprise le concept de weaponize la misère, là.
Ouais, ouais. Si j'apprenais que François Havard a écrit ce scénario-là tout d'une traite en deux semaines ou moins et qu'il n'a jamais jeté un coup d'œil dessus, je serais comme. Ouais, c'est ça qui est arrivé.
Veux-tu que je te dise? Je suis allé justement lire le journal. J'ai lu une entrevue avec François Havard. François Havard a fait partie de la tournée Haha Haïti. Mm-hmm. Qui était. Je pense que c'est l'affaire, justement. Tu sais, Mike Warren en parle des fois quand il est allé en Haïti faire du stand-up.
Ouais.
Je pense que c'est la première mouture de ça, tout de suite après le tremblement de terre. Puis, François Havard est revenu, puis il a fait un burn-out parce que, genre, il était comme un peu les affaires condescendantes qu'on vient de dire. Genre, ce peuple-là, il rit même quand c'est triste, tu sais, tout ça. Puis il a fait un burn-out, puis là, il a comme rien fait dans sa cave pendant 4 mois, puis quand il est sorti de sa stupeur, il a écrit Ego Trip. Fait qu'il y a un peu comme un genre de. Un aspect thérapeutique à ça, qui est vraiment wack.
Ouais!
Qui est vraiment wack. Mais tu sais, c'est vraiment wack parce que quand tu vois le film, t'es comme. Content que tu ailles mieux, François, mais...
Ouais.
Mais moi, je vais moins bien depuis que j'ai regardé Ego Trip.
Ouais, chaque minute qui passe, je vais moins bien, là. Puis, mais c'est ça, c'est que ces notions-là puis ces idées-là sont bonnes et intéressantes. Puis là, il tire à boulet rouge sur toute Motadine.
Ouais,
mais
ouais.
J'ai l'impression que ça, c'est le bout qui l'intéresse le plus. Mm-hmm. Mais c'est le scénario... l'idée narrative conventionnelle de ce gars-là est un trou de cul, il s'en va là-bas, puis là, il apprend à être une meilleure personne. Et puis, il faut que ce soit positif et un bon film. Il faut que ce soit positif et rassembleur. Et c'est pas ça. T'as pas écrit autour de cette idée-là.
Exact.
Puis, ça ne fonctionne pas.
Puis, pour dire tout le dernier acte du film, et ils sont pris en otage par des terroristes là, qui revendiquent, je sais pas trop, là, une rançon ou whatever. Mm-hmm. Et là, le film prend une tournure assez dramatique, le plus dramatique possible.
Ouais.
Et le film se termine avec le rapatriement, tu sais, comme un genre de un truce entre l'Haïti et le Québec. Tu sais, comme il dit, le gars, le terroriste en chef, il est comme... Nous, on veut... on a des revendications, mais ça va jamais passer par le sang d'autrui. Et puis là, il colle ou whatever. Mm-hmm. Puis là, juste ça, il arrive à l'aéroport en pleurant, puis il colle sa famille, puis il y a du Vincent Vallière qui joue. Puis là, je suis comme... Le film n'a pas gagné cette fin. Il n'a pas travaillé pour l'obtenir. Puis peu de films l'auraient travaillé pour l'obtenir que j'aurais fait « Ah, c'est-tu que c'est touchant comme fin? » Tu sais, c'est vraiment quétain. Mais c'est doublement comme... Tu sais, c'est tellement pas bien jugé, puis c'est tellement mal exploité... Que la fin, c'est vraiment comme... Tu sais, j'étais comme un peu insulté.
Ben oui, c'est comme... Guy Jodoin existe pour être un genre de ballon de clown que tu punches puis qui rebondit. Puis ouais. Il revient tout le temps pour que tu le punches. Sans aucune vraie réalité. Cette fin-là est comme ça aussi. Puis l'aspect terrorisme aussi est...
Tu les sens jamais vraiment en danger, mais le film les traite comme si c'est extrêmement dangereux. Il y a une longue joke de viol aussi dans ça qui est poche.
Ouais.
Là, c'est comme, mais là, where do you get off avec cette petite joke de viol-là là, que le film a jamais fait dans ces genres de tons-là avant. Là, soudainement, Guy Jodoin, il y a plein d'affaires où c'est juste comme, je comprends sur papier l'idée, tu sais, de comme, bon, le personnage est ici, mais finalement, tu sais, tout est, tu sais, c'est ça. Tout est dans la parure, les personnages veulent paraître, ça. Hein? C'est sur la performance. Comme Gone Girl, c'est sur la performativité.
Ouais.
Je te dirais Gone Girl fait un petit peu une meilleure job.
Un petit peu.
Mais tu sais, je comprends, il y a des bonnes idées dans ce film-là, mais ça, c'est zéro abouti, puis ça fait que si tu les mets bout à bout, toutes les idées pas abouties, c'est des petits bouts. Tu sais, c'est comme t'as roulé une cigarette avec plein de botch. C'est pas une vraie cigarette.
Non.
C'est plein de botch.
C'est du matériel fumable. Mais ouais, tu devrais ça. Peut-être pas.
Exact, c'est ça.
Avant qu'on termine, je voudrais juste dire, par exemple, que Guy Jodoin se donne tellement à 150% de toutes les affaires qui ont été écrites sur une feuille pour que lui, il joue, que c'est comme... J'ai comme, Guy, tu mérites mieux. Tu mérites mieux.
Là, je suis écœuré de regarder des films de merde. Je veux qu'on regarde quelque chose qui est pas de la merde.
D'accord, faisons ça.
J'ai vu qu'il y avait Requiem pour un beau sans cœur sur Crave.
Ouais.
De Robert Morin. Est-ce que t'as déjà vu ça?
Je crois que j'ai déjà vu des boosts avec Gilda Roy.
Avec Gilda Roy. Ouais.
D'accord.
On va regarder ça. Parce que là,
ça.
À un moment donné, là, genre, on va nous accuser de faire du Québec bashing.
Ouais, ouais.
Là, un certain...
Du bashing bleu.
Ben, c'est ça, un certain chroniqueur à lunettes qui est dans un autre continent, mais qu'on a quand même peur de se faire battre par lui quand on se promène dans la rue.
On va le shit-talker des fois, mais si jamais il est dans la même rue que nous autres, faut qu'on change de trottoir, ça. Il peut peut-être nous rincer.
Mais je ne vais pas me faire accuser de faire du Québec bashing parce qu'il y a du bon cinéma Québec. Mais justement, cette semaine, il y a eu toute une controverse. Là. Un dossier dans la presse sur genre qu'est-ce qui se passe avec le cinéma québécois parce que les films font pas d'argent, puis ça prend du cinéma populaire, tout ça, puis plein de gens qu'on connaît se sont prononcés.
Mm-hmm.
Et moi, tout ce que je vais dire à ça, c'est si le cinéma populaire que vous envisagez, il ressemble à Ego Trip, non. C'est pas ça la solution.
Non. C'est Rough Times.
C'est ça. Ben, ça fait pas si longtemps que ça.
Non, mais hey, ça, c'est une affaire qui est vraiment choquant. d'une couple de films qu'on a écoutés récemment, j'ai tout le temps l'impression qu'ils ont été faits en 2005.
Ouais, ouais.
Puis je sais pas comment, c'est-tu une qualité de la couleur ou de l'image ou une qualité de joke usé de l'époque, tu sais, mais... Ego Trip a l'air d'être sorti au début des années 2000, mais il est sorti il y a 7 ans.
Ouais, c'est ça. Sorti la même semaine que Magic Mike avec Excel.
Magic Mike avec Excel.
Il va avoir une suite bientôt, d'ailleurs.
Oui, j'ai très hâte de le voir cet été, d'ailleurs. Aussi, je voulais te dire que officiellement, j'en avais parlé ce lundi. Toi, moi et ma copine allons aller au Cinéplex Forum.
Ah oui.
Puis on va aller voir un des features du prochain épisode. On va aller voir 80 for Brady, mon cher.
OK, fait que ça va être un doublé la semaine prochaine. 80 for Brady et Knock at the Cabin.
Knock at the Cabin. Fait que, une grosse semaine qui s'en vient pour les voyeurs de vue.
Qu'est-ce
que ça veut dire qu'on va avoir un épisode Requiem pour un beau soccer, 80 for Brady et Knock at the Cabin. Aucun autre podcast va ratisser de même.
Ça, c'est certain.
Aucun autre...
Si vous prenez des notes, là, prenez-en là. Envoyez ça au record Guinness.
Personne d'autre va faire ça. Là, je pense que c'est le temps qu'on parle de notre film de la semaine. Notre Best of Ben de la semaine. Best avec un B majuscule, honnêtement. On est là pour parler de Gone Girl. Gone Girl qui est un roman originalement de Gillian Flynn. Qui a adapté son propre scénario.
Effectivement.
Qui est une situation qui ne se passe pas toujours super bien. Comme on a vu avec d'autres writers britanniques, comme, mettons, Notorious Turf, J.K. Rowling.
Je veux dire, c'est elle qui a écrit les scénarios des Harry Potter.
Elle a écrit les scénarios des Fantastic Beasts.
Ah, OK, ouais, ça fait plus de sens que tu
dis. Puis ça, c'est là que ça va moins bien, là, tu sais.
Ouais.
Et puis, c'est un livre qui... Elle a écrit, qu'elle a réécrit beaucoup en collaboration avec le réalisateur du film, David Fincher. Un film qui met en vedette Ben Affleck et Rosamund Pike, Carrie Coon, Patrick Fugit,
Kim Dickens,
Emily,
Neil Patrick Harris,
Emily Ratajkowski,
Tyler Perry, le gigantesque Tyler Perry
dans le rôle de Tanner Bolt. Tyler Perry, il est shapé comme l'artiste qui a créé l'univers de DC animé essentiellement, c'est Bruce Timm. Tyler Perry est shapé comme un bonhomme de Bruce Timm. Il est comme une grosse montagne avec une tête. Il est merveilleux.
Dans le Flophouse, le podcast de Flophouse, quand il avait fait le film, tu sais, Tyler Perry avait repris le personnage que Morgan Freeman jouait de...
Alex Cross. James Patterson. Yeah, oui,
il a été décrit comme un matelas avec une tête. C'est essentiellement ça.
Oui, absolument. Fait qu'il est gigantesque. Et puis, dans le rôle éternel de Tanner Bolt, maintenant, bien sûr. Et Gone Girl est le dernier film en salle de David Fincher, je crois. Je crois que c'est son dernier film en salle, parce qu'après ça...
Ben non, A Girl with a Dragon Tattoo?
Non, c'était avant, je crois.
C'est avant? Non. Ah, ben peut-être. Okay.
Je pense que c'est avant, parce que c'est après ça que là, il a été faire House of Cards, puis que là, il a fait comme, « Hey, les amis de Netflix, c'est quelque chose. »
T'as raison.
Tabarnak,
ok.
Netflix, c'est quelque chose. C'est son plus gros film, question box office. Puis après ça, ben, il a juste fait des films pour Netflix. Il a fait Mindhunter, il a fait House of Cards. Fait que c'est comme.
Hé là là, je savais pas ça.
À date, c'est son au revoir aux salles. Puis il a fait plein de gros films. Moi, je pense que c'est mon film préféré de David Fincher. T'sais, Seven, c'est cool, mais ça a tellement été emprunté qu'à un moment donné, peut-être les
ça
éléments
originaux... Ça s'en regarde de moins en moins bien, Seven, je te dirais. Ça existe de plus en plus à son époque, ça transcende.
J'imagine
pas.
Que dans les films de DTV que t'écoutes, tu vois encore des retards de Seven à côté.
Oui, il y en a un, mais là, je l'ai pas vu encore, avec John Malkovich qui fait le tueur, et le policier, c'est Martin Lawrence.
Bon, regarde, ça va bien.
Ça s'appelle Mind Game, moi, enfin, je vais l'écouter. J'en parlerai quand je vais l'avoir écouté, là, puis ça sera mon autre film de la semaine.
Parce que, tu sais...
Oui, mais ça revient souvent, mais ça revenait, c'était particulier, là, dans les films de studio à mid-budget, là, des années, tu sais, pendant quasiment 15 ans après.
Oui, parce que Seven, c'est un de ces films-là qui est comme excellent, mais que tu penses, peut-être que je pourrais.
Ouais.
Tu sais, il y a une qualité comme ça, des fois, à certains films, tu sais, comme un Midnight Run
ou
The Apartment, qui sont tight d'une certaine façon que tu penses que tu peux comme le copier-coller, mais c'est pas aussi simple que ça.
Puis tu sais, puis ça a aussi une esthétique extrêmement, tu sais, qui a mal vieilli, là, vraiment, vraiment sombre, années 90, tu sais, vraiment.
Crotté grunge.
Un peu edgelord, tu sais, comme ça a mal vieilli. Après ça, c'est quoi, il y a The Game? Que ça fait vraiment. Ça, on pourrait le faire un jour parce que.
Faudrait qu'on le fasse.
Ça fait vraiment. Moi, je l'ai vu quand c'est sorti, j'avais 11 ans. Je comprenais rien, je trouvais ça stupide, ça me faisait fucking chier. Là, dans ma tête, j'ai toujours dit The Game, c'est de la merde. Mais je pense pas que The Game, c'est de la merde. C'est juste que. Faudrait peut-être que j'arrête de me fier à qui j'étais quand j'avais 11 ans. Là, genre. Mais... Ça m'a jamais intéressé de le réécouter, mais tu sais. Comme...
Je l'ai vu en DVD à un moment donné, justement, comme dans le peak DVD era, tu vas au club vidéo, tu loues des DVD, tout ça, c'est ça. Sinon, tu sais, à travers. Il y a plein de.
Fight Club,
ouais, qui a ça aussi. Ça par exemple, ouais, c'est un. Ça aussi, c'est un formé. Culturellement vraiment important.
C'est ça, mais tu sais, puis comme Gone Girl, je pense c'est un film où ce que le film te donne les clés pour penser ce que tu veux, puis la majorité du monde n'y a pas pensé la bonne affaire.
Ouais, ouais.
Comme David Fincher te donne, ça c'est une affaire que j'apprécie énormément de Gone Girl comparativement mettons à Women Talking, qu'on c'est que il te dit rien, tu sais, il dit décide, arrange tout avec ça, c'est pas moi qui décide.
Ouais, ouais.
Puis là t'es comme ah non. Fait que tu sais, je pense que tu sais, si t'as une réaction super négative à Gone Girl en disant c'est tellement trash, pis c'est tellement misogyne whatever. Tes émotions sont réelles parce que c'est ça, l'affaire que Fincher a en commun avec Paul Verhoeven, c'est bon, il utilise les mécaniques de des affaires très populistes, tu sais, du cinéma de genre et il donne du comportement extrêmement répugnant et dit maintenant arrange-toi avec ça. C'est pas moi qui va te dire quoi penser.
Ouais, c'est ça. Moi, je fais juste le livrer chez vous. Puis toi, ouais. Tu t'arranges.
C'est ça. Puis tu sais, il y a quelque chose de t'sais, pervers dans le. Pas dans le sens sexuel, mais t'sais, dans le sens de genre vouloir toujours faire qu'est-ce qui est pas reconnu comme la norme, là, t'sais, comme t'sais, perverse, pas perverted, mettons.
Ouais.
De comme, tu sais, Fincher et Verhoeven ont vraiment ce sentiment de comme, je transgresse et en plus, je m'en sauve. Vous allez pas pouvoir me poser de questions. Ça, j'apprécie ça beaucoup plus que genre, tu sais, des affaires pamphlétaires. Même si je suis plus d'accord avec les affaires pamphlétaires, peut-être que qu'est-ce que eux vont avancer.
Ouais, ben, je pense qu'il y a aussi, c'est très Hitchcock-esque, mais tu sais, à son époque, Hitchcock, l'affaire perverse qu'il pouvait mettre dans ses films était extrêmement.
On va suggérer un spiky. Là, le monde. Mais, tu sais, il y a des films de Hitchcock, surtout plus tard, là.
Non, mais tu sais, la madame, elle sauve, puis là, elle a teint tous ses cheveux blonds, puis ses sous-vêtements sont noirs quand elle va se changer. Christ, que c'est cochon pareil, n'est-ce pas? Ouais. Tu sais, c'est. Il faisait la version qu'il pouvait à l'époque, où, comme on parle, c'est comme. De Palma, il a fait comme Let's Go par la suite. Puis je pense que Fincher fait quelque chose de semblable
ouais,
aussi.
Ouais, ben De Palma, t'as dit plus comment tu. Tu sais, De Palma, c'est plus un perv.
Ouais, il est comme t'sais, yes!
De Palma, il est comme check ça. Check. Tandis que Fincher, il est comme. Dis ça, je dis rien, voici quelque chose.
Regarde-les si ça te tente.
Ouais, c'est ça.
Si t'es mais... sexuellement excité par cette scène de viol, c'est ton affaire,
mais
c'est pas la mienne.
Mais c'est aussi l'affaire, c'est aussi une affaire de Fincher, de c'est comme, regarde-le si ça te tente. Si tu le regardes pas, ça dit quelque chose sur toi aussi. Là, t'es comme, non, je veux pas arrêter de me dire quoi, qui je suis.
Ouais, il nous rechaque ça en sacrement. Regarde, on va expliquer qu'est-ce qui se passe dans la Gone Girl, mon Dadine. Nick Dunn, incarné par Ben Affleck, un matin, sa femme disparaît et immédiatement, il y a des circonstances. La table de verre est pétée dans le salon. Il décide d'appeler la police. La police arrive puis comme il pose des questions sur qu'est-ce qui est arrivé à sa femme, est-elle disparue, qu'est-ce qui est arrivé. Puis la première affaire qu'on remarque vraiment, c'est que il donne aucune réponse à chaque fois que la police. Tu sais, la police est essentiellement. Il pose une question dont l'information n'est pas sur le passeport de sa femme, puis il sait pas, genre.
Ouais.
Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle aime? Qui est-elle? Puis il sait pas. Et après, à cause de la disparition de sa femme, il y a un cirque médiatique qui se construit autour de la disparition de sa femme parce qu'elle est la base d'une série de livres pour enfants écrits par ses parents qui s'appelle Amazing Amy. Fait qu'elle est comme une construction que l'Amérique aime.
Exact.
Et à travers son.
Qui représente tout, tu sais, comme. une belle madame posée américaine,
mais
c'est
qui
ça.
Est, mais qui est aussi cochonne et down to clown.
A cool girl, comme elle nous explique spécifiquement.
Plus tard dans le film.
Mais tu sais, mais je veux dire, pour les médias, c'est la victime parfaite.
Oui.
Puis ça j'ai vraiment, on en reparlera, mais tu sais, ce qu'il n'y avait pas en 2014 quand ils ont fait Gone Girl, c'est des podcasts de true crime.
Ouais.
Puis tu sais, moi j'aime ça, j'aime les crimes en fait, mais j'aime pas vraiment le genre du true crime en tant que tel, parce qu'il y a beaucoup d'éditorialisme puis d'affaires. Puis tu sais, comme une affaire que j'aime vraiment pas dans les podcasts de true crime, c'est quand ils vont parler de la victime, ils vont dire c'était une jeune femme qui avait tellement de potentiel dans la vie, elle était souriante, partout où elle allait, les gens souriaient, tu sais, comme si ça c'est plus grave. C'est comme si le meurtre de quelqu'un qui était smart, c'est plus tragique que le meurtre de quelqu'un d'autre, tu sais, comme
ouais.
Ça, c'était un gars qui avait un air bête, fait que c'est pas grave s'il est mort. Non, personne devrait se faire assassiner, tu sais, point ouais. À la ligne. Fait que tu sais, c'est ça, la narrativation puis le genre d'exploitation un peu de l'image des gens qui se font assassiner, il rit de ça dans Gone Girl, mais j'imagine s'il l'avait fait plus récemment, il y aurait en plus des podcasts.
Il y aurait des podcasts,
il y aurait ouais. il y aurait des jokes de murderinos, là, tu sais. fait que...
Fait que là, il y a ça, puis là, à cause de qu'ils trouvent pas les indices que la police trouve, et ainsi les circonstances, les lentilles se tournent lentement vers Nick Dunn, qui est probablement. Que les gens pensent qu'il a probablement tué sa femme, et on découvre, à travers des flashbacks de
ouais, Spoiler alert. By the way, on va spoiler Gone Girl. Fait que, ouais. Écoutez, bon.
À travers le journal intime, on découvre le journal intime de sa femme, puis comme il y avait une relation parfaite, puis éventuellement la relation est devenue moins parfaite. Et c'est ça que le film nous dévoile. Puis, justement, avant qu'on aille straight dans les spoilers.
Oui.
Avant qu'on aille straight dans les spoilers, je pense qu'il faut qu'on parle de Ben Affleck, de notre amour pour Ben Affleck, puis pourquoi que ça, c'est comme le centre, la couronne de Ben.
Honnêtement, là, c'est quasiment comme de l'or trouvé. Tu sais, comme si tu me dis... Tu sais, c'est comme quand quelqu'un fait un film, puis ils prennent un enfant de la rue pour jouer dans le film, puis là, c'est comme Chris, il est bien bon, cet enfant-là. Ben Affleck est tellement parfait pour ce rôle-là qu'on dirait même pas que c'est un acteur. On dirait pas que c'est Ben Affleck. T'sais, on dirait que c'est... On dirait pas qu'il sait qu'il y a une caméra sur lui.
ouais. On dirait qu'il a trouvé un dude qui... blast son dos au gym vraiment énormément puis son upper body puis qu'il y avait une femme qui a fait ça, tu sais. Mais moi l'affaire que j'ai comparé sur mon Letterboxd, c'est que tu sais que c'est comme du méta casting incroyable.
Oui, absolument.
C'est que maintenant Iron Man est un personnage qui est connu partout dans le monde, un héros iconique global, mais jadis il était comme pas connu. Son comic était pas tout le temps vendeur. Il était un personnage iconique de Marvel Comics, mais il popait pas ailleurs. Mais l'affaire qu'il y avait de spécial de Iron Man, c'est comme, oh, c'est le super-héros qui était fucking riche, qui est devenu alcoolique un moment donné, puis qui a tout scrappé, puis qui s'en est sorti. Fait que quand Robert Downey Jr. a été casté pour Iron Man, j'étais comme, incroyable. Fucking incroyable. Ils ont casté le dude qui a scrappé sa propre carrière brillante avec la drogue pour être le super-héros qui a scrappé sa vie avec l'alcool, tu sais, qui est un storyline qu'ils ont jamais fait dans les films, mais il incarnait ça même s'il faisait pas l'histoire textuellement. Puis ce qui arrive avec Ben Affleck dans Gone Girl, c'est exactement ça, mais encore mieux, parce que là, dans le parcours de la vie de Ben Affleck, il y a eu, là, on a parlé de ses films auparavant, fait que là, il est revenu avec Argo. Il monte. Fait que là, il est sur le point. D'ailleurs, j'imagine que ça shape dans Gone Girl, et c'est parce qu'il est peut-être en train de s'entraîner pour être Batman. Il est sur la pente ascendante, mais avant, il a tombé dans le cratère une couple de fois.
Il a eu beaucoup d'attention médiatique sur lui.
Oui.
Au début, il aimait ça, l'attention médiatique. On se souvient, les affaires de
Anne-Marie Lozic.
Anne-Marie Lozic, c'est ça. Mais là, à un moment donné, il aimait plus ça. T'sais, il était juste comme, je voudrais passer du temps avec ma blonde Jennifer Lopez, puis qu'elle vous arrêtez de me gosser. Puis il pouvait pas s'en sauver. Puis le monde disait, pas qu'il a couru après, mais mettons, il s'est mis dans une situation où il pouvait plus s'en sortir. Et ça l'a rendu extrêmement misérable. Là, rendu dans Gone Girl, il n'est pas avec Jennifer Lopez, il est rendu avec Jennifer Garner.
Oui. Il a fondé une famille avec.
Même sur le bord de divorcer, genre.
Je crois que c'est dans cette situation-là parce qu'il a rencontré Jennifer Garner quand il a fait Daredevil. Il a pas immédiatement sorti avec, mais pas longtemps après, il a commencé à sortir avec. Puis il a eu deux enfants, je crois, avec elle. Puis justement, comme, tu sais, ça... Mettons, il y a une fille qui a probablement comme peut-être 19 là en ce moment. Là,
ouais, ouais.
Fait que ça, c'était en 2014.
2014.
Fait que, ma foi, un an avant Ego Trip. Et puis,
oui, ouais.
Et Chris. Puis, fait que là, Ben, il a multiples fois, il s'est brûlé en public, il est revenu de ses cendres. Puis là, c'est un film sur un gars... que le monde sont comme j'aime pas comment qu'il se comporte avec sa blonde qui est une somehow une célébrité que je connais pis que j'aime.
Ouais, ouais, ouais.
Pis comment qu'il est awkward en public.
Ouais.
Pis il est extrêmement triste. Ouais. Il est comme il est cool quand on les seules fois qu'il est cool, c'est quand on le voit à travers les flashbacks de sa femme. Autrement, il est juste un gars avec les épaules molles que sa sœur jumelle, qui est jouée par Carrie Coon, qui est excellente. C'est Carrie Coon qui est cool dans ces scènes-là, puis qui pitch des liners par la tête.
Ouais,
puis il est comme, oh, arrête donc de me crier après, tu sais. Tu sais, c'est le meme de Sad Ben Affleck, de Sad Fleck, venait du tour de presse pendant Batman vs Superman. Ouais. Mais... ça, les racines étaient là.
Mais c'est ça, tu sais, puis il est vraiment comme un dude normal, tu sais, comme il y a pas de il est pas charismatique, tu sais, mais à part le fait qu'il est gigantesque, tu l'imagines comme un dude, tu sais, ça c'est mon beau-frère, c'est le gars qui arrive. Mais il y a tellement comme de il traîne avec lui comme une carapace de 1000 livres là, tu sais, qui l'empêche de tout faire, puis tu sais. Puis aussi, l'affaire, c'est qu'avant les événements du film, il n'a fait que des échecs. Il est pas cool, tu sais, il est un prof de pas de littérature, mais de création littéraire,
oui, après que, tu sais, on a l'impression qu'il travaillait genre pour un genre de magazine Maxim.
Exact.
Ou at best Esquire, ouais, mais même là, ça. J'ai pas l'impression que c'était ça.
Non.
Puis ça va pas bien, là. Puis il y a juste eu une série d'échecs. Puis il était avec une femme qui était comme. Qui voulait constamment voir le meilleur en lui parce qu'il lui a vendu le meilleur en lui. Mm-hmm.
Puis qu'est-ce qui arrive un peu? Bon, ben, spoiler, là, on va embarquer dans la deuxième partie.
On embarque
partie. Les spoilers. On apprend à peu près, pas tout à fait à mi-chemin dans le film, que sa femme, Amazing Amy, n'est pas morte. Et qu'elle a en fait faké sa mort.
Ouais.
Parce que Ben la trompait. Avec son. Ben, pour plusieurs raisons.
Ouais.
Parce qu'elle a dû avoir sur elle le poids de toute la déception que les hommes. Que le patriarcat met sur les femmes, mettons. Mm-hmm. Puis c'est personnifié par Ben Affleck, mettons. Et elle se sauve de ça. Elle a tout planifié. Tout ce que la police a trouvé qui a l'air d'être un meurtre, c'est elle qui l'a fait au
policier. C'est du niveau. C'est-tu quoi? C'est. Quasiment comme le Joker dans Dark Knight, mais dans ce film-là, il montre comment qu'elle l'a fait.
Ouais.
Dans Dark Knight, à un moment, t'es juste comme, I guess que le Joker le savait puis il est capable.
Ouais.
Amazing Amy, là, est comme dans un test de mathématiques au secondaire, tu sais, elle montre les étapes.
Ouais, exact. Fait que c'est ça. Fait que là, elle se cache, puis là, tu vois que, rendu là, le plan, il y a plusieurs chemins qu'il peut prendre. T'sais, elle a comme un calendrier avec des post-it. À toutes les semaines, il y a un post-it qui est comme « Est-ce que je me suicide? » Parce que ça pourrait faire partie de son plan, mais elle sait pas encore.
Mm.
Fait que là, elle va vivre dans une genre de communauté, de location de chalet, je sais pas trop, avec Lola Kirk qui habite là.
Oui, que Lola Kirk, on est supposé Non, on n'est pas supposé penser qu'elle est repoussante parce que David Fincher est un pervers. Mais je me rappelle que...
Elle est supposée d'être trash.
Elle est supposée d'être trash, mais... Contrairement à d'autres cinéastes qui seraient supposés qui voudraient faire comme oh, cette femme-là n'est pas supposée être attirante. Ouais. David Fincher est comme non, je sais que cette femme-là est attirante. Je sais qu'Yannick Bazin, il a grandi en Abitibi, va trouver cette femme-là attirante.
Fait que là, elle se cache de la société et regarde le cirque médiatique de loin pendant que Ben Affleck essaye de se démarder. Et se démarder, il n'est pas capable de faire ça parce que il est la mère d'incarner.
Oui! Il est juste un pas bon. Dans le on comprend que les parents de Ben et de sa sœur sont comme un peu damnés, là. C'est pas bon, puis c'est probablement un dead end génétique. Mais s'il y a des qualités, c'est tout Carrie Coon qui est là, parce que tout le temps, voyons, Chris, réveille-toi, calice.
Ça, ça a l'air que j'ai pas lu le livre, mais dans le livre est splitté en deux, puis les deux moitiés sont à la première personne. Fait qu'il y a une moitié que c'est narré par le personnage de Ben Affleck, puis là, ça change à moitié. Puis ça a l'air que, tu sais, le père, qui est un peu dans le film, mais tu sais, une figure un peu Alzheimer, sénile, ça a l'air que lui, c'est un gros misogyne sale, puis que Ben Affleck le déteste, ou son personnage le déteste.
Il crie des affaires, des trucs injuriés au propos de femmes.
Mais effectivement, il a l'air d'avoir, tu sais, comme pas toute sa tête. Tandis que je pense que comment le livre le présente, c'est vraiment comme toute sa vie, il a juste entendu ça. Puis c'est un peu comme, ben, la misogynie, whether or not que tu la crois, elle est dans toi, tu sais. Fait que genre, surtout si quelqu'un t'a le balance par la tête toute la crise de journée, toute ta vie, là, tu sais.
Ouais.
Fait que, mais c'est ça, fait que. On n'est pas obligé de donner la fin du film, là, je pense. Mm-hmm. Mais c'est vraiment... C'est un film qui, comme on disait tantôt, tu sais, te présente des affaires et te fait tout le temps changer d'idée sur ce que tu penses.
Ouais.
À toutes les 10 minutes, tu te dis « Ok, c'est ça comme ça que je perçois les personnages. Oh, peut-être que non. Oh, peut-être que oui. Oh, peut-être que non. » Puis, il te donne aucune solution. T'sais, tout le monde qui voit ce film-là peut avoir une analyse différente, mettons. Puis, moi, mon analyse, personnellement, c'est que c'est un film beaucoup plus sur les relations hommes-femmes et la performativité que nous avons dans ces relations-là. Plus qu'un film sur genre les femmes sont folles. Parce que, tu sais, il y a des éléments là-dedans que, malheureusement, si t'es un cave, tu peux te lier à ça puis dire...
Tu penses, c'est un film misogyne, ça dit que les femmes sont folles, ça veut dire qu'il...
Parce que, mettons, elle a faké une agression sexuelle.
Ouais.
Fait que là, ça te dit, ben, les femmes fakent des agressions sexuelles. Forcément, c'est possible, tu sais. Forcément, les outils sont là, mais il est arrivé plein d'autres affaires avant, là, pour ça, là.
Ben,
elle a pas décidé un matin de sortir...
Mais c'est ça, comme Amy Dunn, comme j'ai mentionné, mais tu sais, elle est le Joker. Elle est Hannibal Lecter, puis je te dirais comme c'est l'affaire que j'ai pensé en sortant du film quand je l'ai vu au cinéma pour la première fois, que je pense encore, puis je l'ai écrit dans mon affaire Letterboxd, c'est comme Amy Dunn est à un costume mémorable d'être un méchant iconique de cinéma que du monde s'habille comme elle à l'Halloween. Il y a malheureusement pas ça dans le conjoint, mais essentiellement.
Mais est-ce qu'elle est vraiment méchante? Elle fait des mauvaises choses. Elle est. Mais est-ce que...
Ben, je le dis de façon péjorative, ouais. un archétype de personnage
le
que...
Vilain, là, genre.
Oui, oui, qu'on aime, que, tu sais, du monde se déguise en Bride of Frankenstein ou en Harley Quinn. Ouais. Il pourrait avoir un costume... S'il y avait ça, comme on avait parlé par Messenger, ce serait essentiellement une femme en sous-vêtements qui est recouverte de sang, mais, tu sais, c'est pas assez iconique pour être reconnaissable,
ouais.
Tu sais. Mais c'est ça parce que, justement... Non, c'est une super vilaine calculatrice incroyable. C'est pour ça que moi, je rentre pas dans l'idée de représentation que ça représente quelque chose de qui est essentiellement misogyne parce que elle crie au faux viol, parce que on a comme une constellation de personnages féminins autour qui représentent d'autres points de vue.
Ouais, c'est ça, effectivement.
Certains qui l'attaquent elle directement,
ouais.
Fait.
Puis tu sais, moi aussi, ce que je pense, c'est, tu sais, comme pour revenir sur la notion de la performativité, tu sais, quand elle nous parle de... Ça fait son cool girl monologue. Elle explique, elle dit, moi j'étais ci, moi j'étais ça, parce que je veux que tu trouves que je suis cool. J'ai fait, tu sais, cool girl, c'est comme un manic pixie dream girl, un peu, c'est un idéal qui n'existe pas. Puis elle dit, tu sais, les hommes, ils recherchent ça. Fait que moi, pour avoir un homme, il fallait que je fasse ça. J'ai tout fait pour toi, puis tu m'as pas redonné l'appareil, tu sais. Mais la raison pourquoi elle pense qu'il faut être quelqu'un d'autre qu'elle n'est pas, c'est que ses parents l'ont mis enceinte quand elle était super jeune.
Ouais.
Puis ils ont toujours fait faire des affaires qu'elle n'était pas capable de faire. Fait que tu sais, Amazing Amy, dans les livres, mettons, elle est une championne de tennis. Mais elle, elle a joué au tennis 3 fois, puis elle était pas bonne, elle aimait pas ça. Fait que dès sa, tu sais, dès son jeune âge, elle vit dans un monde où est-ce qu'elle est constamment une déception et elle est constamment en performance.
Puis il faut qu'elle se transforme en un autre personnage qui n'existe pas pour exister.
Puis, fait qu'elle elle arrive dans la vie adulte avec comme des attentes que si elle fait ça, ben tout le monde va lui rendre l'appareil, pis ci, pis ça. Puis tu sais, je dis pas que Ben Affleck a raison de la tromper, évidemment, il n'y a pas raison de la tromper. Mais dès qu'il y a comme une roche qui revole dans son windshield et qui craque son windshield, elle snap parce qu'elle, pour elle, elle a tout fait ce qu'il fallait faire. Puis ça, c'est vrai, tu sais. Il y a des attentes irréalistes des femmes. Tout ce qu'elle dit dans le Cool Girl monologue, c'est des choses que, tu sais, quelque part, que dans les médias, dans la culture, on s'attend d'une femme. T'sais. Tu manges juste de la pizza, mais tu prends pas de poids, tu sais, tout ça, tu sais. Mais après ça, est-ce qu'elle devrait snapper de la façon qu'elle snap? Probablement pas. Parce que c'est comprenable qu'elle aille snapper 100%.
Ouais.
Tu sais. Puis là, à la fin, il y a tout un monologue, peu de temps après qu'on voit le pénis de Ben Affleck.
Ouais, ouais.
Ou juste avant, genre. Ou est-ce que, elle raconte son affaire, tu sais, elle utilise le mot cunt, fait que je vais l'utiliser. Mais
ouais, ouais.
Elle dit, I'm the cunt you married.
Ouais, Ben Affleck la traite de
conne.
Ouais, de sale conne.
Ouais.
Et elle lui dit en avant, je suis la conne que tu as épousée.
Puis elle dit, tu t'es jamais aimé, sauf quand t'es devenu quelqu'un d'autre parce que tu pensais que cette personne-là, c'est quelqu'un que cette conne-là aurait pu aimer. Puis là, c'est genre, ouh, tabarnak. Fait que là, tu sais. Fait que c'est un peu ça, tu sais. Elle sait aussi que le monde sont en performance autour d'elle, tu sais. Mais elle pense que sa performance à elle est plus valide parce que ça y a été demandé d'elle de toute sa vie, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Puis ça y a tellement amené d'affaires.
Exact. Mais aussi, ça y a amené énormément de tristesse puis de trauma, tu sais. Fait que, moi, je pense. Puis tu sais, comme, il y a un aspect du film où c'est comme, sans vouloir, là, que là, je vais arriver dans le TMI de ma vie, mais tu sais, quand tu es dans une relation que ça fait longtemps. Puis ça commence à chier. Toutes les actions de l'autre personne sont vues comme une atteinte à toi. Et vice-versa. Fait que là, t'es soudainement dans une genre de... Tu sais, de push and pull, de comme... Ah, elle m'a fait ça, fait que j'ai le droit de faire ça. Mais elle t'a pas rien fait. Elle a fait quelque chose. Tu sais, mais là, tu sais plus d'où c'est que c'est venu. Mais là, tout le monde est comme en compétition. Puis c'est ça qui arrive un peu dans le film. Tu sais, puis t'as vraiment la scène, là, genre... Moi, c'est la scène que j'aime le plus. C'est quand elle regarde la TV, elle regarde l'émission... Genre d'émission trash de talk show.
Ouais.
Puis Ben Affleck, il dit « Je t'aime ». Puis il fait un move en touchant son menton pour lui dire « Je sais qu'est-ce que tu fais ». Tu sais, Ben Affleck a compris un peu qu'est-ce qui se passe.
Ouais.
Si t'es... Puis elle a fait « Fuck ». Elle se rend compte, le jeu, tu sais, elle a pensé qu'elle avait gagné.
Ouais, que, ben en fait, elle pensait que le jeu n'allait plus jamais exister.
Exact.
En plus.
Puis là, elle est comme « Fuck, je fais encore partie du jeu ». Tu sais, puis ça, ce que l'affaire à faire, c'est il faut que tu... Ça essaie de sortir ensemble. Puis dans ça, il y a comme des enjeux financiers. Tout son argent vient de elle. Ben Affleck peut pas, vu que c'est un gros daddy loser, il est pas capable de rien faire sans avoir son argent à elle. Puis il est pas capable de revenir à une vie, tu sais, plus humble ou whatever. Puis ça, c'est une affaire aussi, tu sais, comme t'es comme, ben là, faut que je vive dans un autre appart. C'est mieux de se torturer l'un l'autre, tu sais, avec une affaire qui marche plus, que de juste, tu sais, vivre une vie différente. Et ça, c'est jamais ça la réponse, tu sais. Mm. Puis la fin du film est tellement extrêmement cynique, genre la plus fucking. Puis je pense que c'est cynique, mais aussi en même temps, c'est comme. C'est un regard un peu lucide sur les relations, dans le sens que tu pourras pas être en relation si tu t'attends à ce que l'autre personne te déçoive jamais. Tu sais, dans le macro de cette idée-là, là. C'est que tu peux pas t'attendre à ce que. Si toi, tu penses que tout ce que tu fais, c'est correct, les gens vont te rendre l'appareil. Ça va ça, puis ça, tu sais, ça va dans aussi.
Ouais,
dans
ouais,
les...
c'est pas sain, là.
C'est pas juste des affaires de relations homme-femme, c'est dans n'importe quoi. Si toi, tu promènes, tu vas quand même être déçu des hommes, même si tu penses que tu vis ta vie parfaitement, tu sais. Mm-hmm. Fait que. Bref. Ça, c'est mon analyse de Gone Girl.
C'est une excellente analyse. Regarde, moi, l'affaire qui m'a vraiment fait capoter de je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. C'est que je l'ai mentionné dans la semaine, dans les derniers mois, c'est que j'ai commencé comme à vraiment rentrer dans le genre du screwball comedy.
Mm-hmm.
Puis, dans le genre de comédie, dans ce genre-là, il y a comme un, à cette époque-là, il y a un sous-genre de comédie romantique.
The comedy of remarriage, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui. La comédie de remariage où ce que, essentiellement, c'est... l'histoire commence où ce qu'un couple marié n'est plus ensemble, mais à travers une histoire, ils comprennent pourquoi. Ils sont comme, ils comprennent. Cette personne me fascine encore, mais je comprends pourquoi je suis plus avec, mais là, je peux revenir encore avec. Puis, c'est tout de même une forme qui est difficile à créer, puis qui existe moins maintenant. Là. T'sais, mm-hmm. T'as comme une bribe de ça dans certaines comédies romantiques, mais c'est un genre qui existe quasiment plus. Puis de voir que Gone, à ma deuxième visionnement, que Gone Girl, c'était une comédie de remariage,
ouais.
Mais extrêmement dark. Puis que les flashbacks de Amy, t'sais, les flashbacks de Amy, c'est comme une comédie romantique filmée super classique à David Fincher avec des ombres. Puis là, c'est comme, ah, ben on t'a repogné pour... déménager dans son patelin. J'suis comme, ça, c'est du shit de Hallmark.
Ouais, ouais.
Tu sais, c'est... Ça l'empruntait toutes les autres codes de... Ça emprunte tous les codes de comédie romantique, cinématographique, puis comment qu'ils sont une version dark, et par dark, je veux dire, non enfantine.
Ouais, ouais.
Non Seven, dans le fond. pourri. De tout ça, j'étais comme, qu'est-ce que c'est bien fait. Qu'est-ce que c'est bon. Bien joué. Puis, regarde, on a parlé de tout ça avant qu'on termine. Juste mentionner que on a parlé de Ben, qu'on l'aime. On l'aime, Ben. Mais Rosamund Pike, dans le rôle de Amy,
ouais, ouais,
est
absolument.
Vraiment incroyable.
Surtout, elle a une façon de parler là, quand elle fait la narration, là, où ce qui est comme une vraie affaire de TikTok. Tu sais, genre une proto-TikTok.
Ouais,
là,
mais aussi proto-podcast de True Crime aussi. Ouais, comme...
Comme un genre de vocal fry, là, super pointilleux, perfectionniste.
Oui, c'est vrai. Quand c'est les bouts de son journal intime, c'est comme « Voici la date et
ouais.
Je suis en amour avec ce gros imbécile que j'aime. » Puis, mais il y a ça, tu sais, elle a eu des transformations physiques comme deux, trois fois pour
ouais.
Le tournage, tu sais, de d'avoir une certaine shape. Prendre du poids, changer ce shape-là. Mais elle est vraiment bonne. Puis je pense que, tu sais, tout le monde dans ce film-là, peu importe leur rapport, c'est comme dans leur meilleure performance. Tu sais, Emily
ouais.
Ratajkowski, le peu qu'elle a fait dans ce film-là, est vraiment comme utilisée, comme façonnée de la meilleure façon possible, comme dans ces trois scènes qu'elle apparaît.
Mm-hmm.
Casey Wilson, que j'aime,
ah oui,
j'aime
c'est
beaucoup,
vrai, Casey Wilson.
Qui joue la voisine enceinte. Elle est juste comme pitchée au niveau exagéré, juste assez.
Mm-hmm. Ben, Tyler Perry.
Tyler hein? Perry qui est là, puis est comme. Qui, pour citer Wesley Morris de jadis de Grantland ou de Ringer, disait comme. Qui fait. C'est-tu que vous êtes whack les blancs, mais sur 6 scènes, genre.
Ouais.
De façon vraiment écœurante. C'est Patrick Fugit qui est comme. On se rappelle de lui dans Almost Famous,
ouais, ouais,
qui est comme un comme vraiment intéressant.
Ouais, lui, il est vraiment comme c'est le policier qui il haït tout. Là. Genre, lui, il donne aucun lousse à personne. Hein. Il est genre, il est coupable, je l'haïs, je veux pas le voir, qu'il s'en aille, je l'haïs. Il est tout le temps comme.
Puis à la fin, il est comme quand Ben Affleck il se dit comme, je trouve pas ça oui qu'elle a fait ça, je suis comme, sois dans le contact que ta femme soit revenue, tabarnak. Regarde, puis là, on pourrait parler justement de la fin aussi.
Oui.
Sérieux, y a une électricité dans Gone Girl de comment que ça deal avec des enjeux d'accusation pour les différents sexes. Mais, ultimement, vu que, tu sais, c'est scénarisé par une femme, c'est pas l'œuvre d'un homme. Fait que c'est pas comme une histoire, c'est comme, hey, les femmes, ils mentent des fois.
Non, mais, puis tu sais, après ça, ça veut pas dire que non plus une femme peut pas avoir des propos misogynes, hein, genre, ça existe aussi. Mm-hmm. Mais effectivement, moi, je pense que justement, l'affaire est un peu un test de Rorschach. Tu sais jamais. Tu sais, tu peux voir ce que tu veux là-dedans. Puis ça dépend. C'est aussi, je pense qu'il y a plusieurs événements clés qui vont changer. Parce que tu sais, tu changes d'idée tout le temps. À un moment donné, il y a un moment, puis c'est différent pour tout le monde, parce que tu changes, puis tu restes. Là, t'es comme, OK, j'ai compris, c'est quoi. Tu sais, pour moi, ce film-là, c'est ça. Puis. Fait que tu sais, je pense que ça, c'est voulu aussi de Game of Thrones. J'ai pas lu le livre. Peut-être que dans le livre, c'est pas pareil. Mm-hmm. Parce que justement, t'as pas la subjectivité dans le film. Mm-hmm. Tu as la subjectivité de elle, de Amy, un peu. Mais pas tant que ça, parce que t'sais, c'est
tu pas... l'as pour 7 minutes, genre.
Ouais, c'est ça. Fait que tu sais. Puis tandis que le livre est 100% subjectif. Fait que tu sais, déjà là, faut que tu changes d'affaire. Puis tu changes automatiquement le propos de quelque chose. En le rendant, ben, pas objectif, mais en enlevant la subjectivité des personnages. Mm-hmm. Fait que, ouais, bref, Gone Girl, c'est bon quand même.
C'est bon, regardez-le. Malheureusement, moi, je l'ai loué sur iTunes, puis j'ai immédiatement regretté. J'aurais dû l'acheter parce que je voulais écouter le commentaire avec David Fincher, parce que comme calice, c'est
bon. Ça a l'air
bon.
Que dans le commentaire de David Fincher, il est vraiment fâché après Ben Affleck, parce que Ben Affleck refusait de porter une calotte des Yankees.
Je pense que c'est potentiellement vrai, mais c'est aussi potentiellement une blague. Une fois de plus, comme Gone Girl, c'est un Rorschach. Les données que t'amènes là, c'est ça qui guide ta pensée.
Ouais, ouais.
Mais oui, c'était vraiment un film superbe. Regarde, si je le vois physiquement dans une place pas chère, moi, l'acheter, je veux le réécouter, je trouve ça merveilleux. Et je le recommande à tous. Mais en attendant, on va terminer l'épisode.
Oui, il faut vraiment, vraiment que j'aille aux toilettes.
Oui. Puis on a un de nos amis qui est à la table.
C'est ça, qui nous regarde en mangeant une pizza.
En mangeant une pizza. On va suivre son exemple très bientôt. Mais en attendant, Alex, on te trouve où sur Internet et
Twitter,
ailleurs?
Twitter, c'est Alex Rose avec deux petites barres à la fin. Ensuite, Bert Simpson sur Letterboxd. Et vous pouvez venir à l'espace public sur la rue Ontario, au coin de la rue Ontario et Chambly, ce dimanche à 18h pour le quiz de l'espace public animé par moi.
À chaque fin de dimanche de fin de mois.
Chaque dernier dimanche du mois, c'est moi qui anime le quiz de l'espace public. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, le monde vous a dit « Je vois plus jamais là, c'est un sale. » Je rends ça beaucoup plus facile maintenant. Il y a une ronde, c'est juste « Nommez-moi des couleurs. » Si vous connaissez des couleurs, vous pouvez venir au quiz. Vous allez automatiquement avoir un trophée de participation. Fait que c'est ça, je pense que c'est pas mal l'étendue.
Mais est-ce que je peux lire tes articles sur Cold Montreal?
Ah oui, c'est vrai, j'ai deux affaires sur Cold Montreal. C'est sûr que là, j'ai une nouvelle job qui est assez...
Prenante.
Fait que j'ai moins le temps, mais j'ai fait un review de Skinamarink puis un de Broker de Hirokazu Kore-eda qui sont là maintenant. Il va peut-être en avoir d'autres, mais c'est... je suis rendu pigiste, là. Je suis plus éditeur. C'est Justine Smith qui s'occupe de cela.
La merveilleuse Justine. Pour ma part, c'est Athénée Belzile sur Twitter, sur Instagram, ainsi que sur Letterboxd, où vous avez mes opinions de cinéma. J'ai aussi d'infolettres à yannickbelzile.substack.com. Alors, c'est ça pour le moment. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Comme on a mentionné, il y a le... En fait, non, le cinéma moderne va être là, mais on peut dire, je pense qu'on peut dire maintenant, oui, que le 15 février au cinéma moderne, il va y avoir un quiz... sur les films de... sur les comédies romantiques, les films, ouais, de romance, les films d'amour.
D'amour, oui.
Pas juste des comédies romantiques, mais voir des films d'amour. Alors,
inscrivez-vous. Vas-tu avoir des questions sur Gone Girl? Peut-être.
Peut-être. Peut-être. C'est très possible qu'il y en aille.
J'espère que vous avez bien écouté.
Écoutez bien, car c'est pour qu'il y ait une question de Gone Girl. Alors, soyez des nôtres, là, au cinéma moderne. On va faire le quiz de demain qui est sold out. Alors, allez-y maintenant. Mais en attendant, on aimerait ça vous dire merci beaucoup de nous avoir écoutés. Allez voir des vues.
Yeah. Et voilà.